Donc moi je suis Hassan Boubakri, je suis professeur à l'université de Sousse et je travaille, j'enseigne la géographie sociale, la géographie de développement et surtout je m'occupe des questions migratoires, les échanges migratoires entre l'Europe et le Maghreb et surtout entre la Tunisie, l'Italie et la France.
Habib Bourguiba était au pouvoir dans son pays depuis l'indépendance, en 1956. C'est donc une page de l'histoire du Maghreb qui est tournée ce soir. Nous allons l'évoquer en détail en commençant par les derniers faits en date. Donc, cet après-midi à Tunis, M. Ben Ali, 51 ans, a prêté serment. Pierre Serrat.
La révolution qu'on présente dans les pays européens comme la révolution du jasmin, mais en fait c'est une révolution du cactus dans le sens où elle a éclaté dans des régions de l'intérieur où c'est le cactus qui est le symbole de la région. Mais bon, officiellement on l'appelle maintenant la révolution de la dignité et de la liberté. Thawrat al-Karama wal-Hurriya.
Confiance dans le président Ben Ali.
Plus de confiance, c'est que c'est un jeune et trop dynamique, et surtout pour la paix dans le pays. Il a trop travaillé.
Plus de liberté.
Plus de liberté, bien sûr.
Vous souhaitez plus de liberté.
Bien sûr. Et la démocratie aussi.
En fait, nous, à l'université de Sousse, à la faculté, on était la seule faculté qui a été attaquée par la police le 6 janvier avant. Donc, parce qu'on avait un mouvement étudiant, l'UGET, l'Union Générale des étudiants tunisiens, dans la faculté, qui sont des étudiants très, 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 qui ont des positions très radicales et très... est très déterminé et d'ailleurs je dirais heureusement, et c'est ce que je n'ai pas compris, nous avons les enseignants qui n'ont pas compris, parce que le 6 janvier on a été, je veux dire, les étudiants voulaient faire des contestations, ils voulaient sortir pour soutenir les gens de Sidi Bouzid et de Kasserine, parce que la répression prenait de l'ampleur à l'intérieur du pays, et ils voulaient sortir pour manifester. Il y avait les forces de l'ordre, les forces anti-émeutes qui sont venues à la faculté pour les bloquer à la porte. Donc il y a eu des jets de pierre entre les deux, les pavés, les étudiants, ils arrachaient les pavés, et la police a ouvert la grille d'entrée de l'université et a commencé à attaquer, donc à rentrer dans la cour devant, et après à l'intérieur même de l'université, de la faculté, ils chassaient les étudiants dans le couloir, ils ont agressé un enseignant, des filles étaient matraquées, étaient, je veux dire, arrêtées par les polices. Et donc, nous, on a essayé, les enseignants, on voulait s'interposer pour limiter les dégâts, surtout que nous étions dans une période d'examen, on voulait que les examens finissent. On était modérateurs, en quelque sorte. Je m'en veux moi-même parce que j'ai pris cette position, dans le sens où j'essayais de protéger les étudiants, Je suis allé devant les policiers pour leur dire de se calmer, de ne pas trop être violent avec les étudiants. On essayait de protéger les étudiants parce que nous savons que les étudiants étaient désarmés. Et si la police... ils sont entrés après, hein, donc de toute façon, on n'a pu rien faire. On voulait un peu limiter les dégâts et donc on n'a pas compris que peut-être il fallait laisser les étudiants parce qu'ils avaient raison. Ils ont eu raison de tenir bon jusqu'au bout. Voilà.
Bonsoir Harold. Bonsoir. On va parler de ce Tunisien de 26 ans qui s'est immolé par le feu dans le centre-ouest de la Tunisie. C'était le 17 décembre dernier. Il est mort aujourd'hui dans un hôpital de Tunis. Ce jeune homme avait commis ce geste pour protester contre la saisie musclée de son étal de fruits. En fait, il vendait des fruits et légumes alors qu'il n'avait pas d'autorisation. C'est un suicide qui avait provoqué des manifestations importantes. Aujourd'hui encore, il y a des milliers de personnes qui ont assisté à ses obsèques. Et pour tout dire, on avait été un peu surpris par l'ampleur que tout cela avait pris.
Là, l'été dernier, donc 2010, il y a eu aussi dans la région de Meghreden, dans la frontière tuniso-libyenne aussi, un mouvement de protestation assez fort parce que la population de la région vivait de l'économie informelle. Et c'était une économie informelle, en fait, qui était tenue, je veux dire, les intérêts étaient tenus par les gens de la région. Et à partir du moment où les clans liés à l'ancien régime voulaient récupérer cette rente et voulaient le contrôler, Les gens de sur place n'ont pas voulu. Ils ont menacé, ils ont bloqué la frontière, ce qui a amené les clans qui sont proches du régime à lâcher du lest et à reculer. Et on peut dire que, je veux dire, l'éclatement, l'immolation par le feu de Bouazizi le 17 décembre a été un peu l'étincelle qui a fait, en fait, qui a été à l'origine de l'incendie, si on peut considérer, de l'incendie révolutionnaire, si on peut dire. Au niveau même, je veux dire, des populations à la base, je crois qu'il y a deux éléments qui ont participé à la réussite de la révolte. D'abord, c'est un ras-le-bol diffus dans la population et une prise de conscience généralisée, mais depuis longtemps, que la corruption est allée trop loin et que personne ne pouvait plus supporter la situation. Je crois que l'un des éléments déterminants qui ont permis cette mobilisation forte, c'est qu'il y avait des slogans très forts qui ont circulé et qui ont été repris par tout le monde. À partir du moment où les gens disaient, par exemple, l'un des slogans dès le début qui a éclaté à l'intérieur dès le 17 décembre, c'était, qui est parti de Sidi Bouzid, donc il disait « Tashghil istihqaq ya isabat surraq ». L'emploi ou le travail est un droit aux bandes de voleurs. Parce que tout le monde sait que était conscient que la corruption a atteint un point que même si tu es diplômé, tu as tes compétences, tu n'arrives pas à avoir un travail ou un emploi si tu ne payes pas, je veux dire, pour avoir ce travail. Donc ça a été très important.
Ce 14 janvier restera marqué dans l'histoire de la Tunisie comme le jour où la dictature a été renversée. Après 23 ans de colère contenue, de liberté bâillonnée, d'opposants censurés.
D'après les témoignages concordants partout, c'est que l'idée, c'est que avec le départ de Ben Ali, il y avait la milice qui était liée au parti et surtout les milices qui sont liées à la garde présidentielle devaient brûler des magasins, des propriétés, casser les portes, et ils partaient, et c'est après les gens qui venaient piller. Et on dit que c'est la population qui a cassé, qui a brûlé. Donc ça a commencé comme ça, et puis de l'autre côté, c'est un peu pendant surtout les 3 ou 4 derniers jours, les jours qui ont suivi la chute de Ben Ali, c'était vraiment des violences, c'est-à-dire des gens qui étaient armés, qui tiraient sur la population, qui essayaient de faire des actes de sabotage, justement, pour faire peur aux gens et pour montrer que c'est le chaos après Ben Ali. Pourquoi cette tentative de semer le chaos n'a pas réussi? Parce que l'ancien régime, il voulait montrer que quand l'ancien régime est tombé, quand il tombe, c'est le chaos. Et donc, on va l'appeler pour revenir. En fait, c'est grâce à la mobilisation citoyenne, vraiment au niveau des quartiers, des villes, des villages, que tout le monde, je veux dire, toutes les populations, la population a défendu ses rues, a défendu ses quartiers, a défendu ses villages, a défendu ses villes, pour que, je veux dire, cette tentative de déstabilisation après la chute de Berlin n'a pas abouti, ce qui explique que, je veux dire, cette révolte, cette révolution a pu aboutir et continuer, je veux dire.
Sur la révolution tunisienne, une révolte populaire partie d'un profond malaise social, un cri que la ville tunisienne de Redaïef avait déjà poussé voilà 3 ans. Et l'événement à l'époque n'avait pas été relayé car censuré, mais en 2008, cette localité a bien initié un vaste mouvement social contre le régime.
Ça, c'était dans le bassin minier de Gafsa, dans le sud-ouest de la Tunisie, parce que c'est un bassin minier qui faisait vivre en quelque sorte, c'est comme la sidérurgie dans le nord-est de la France, dans l'OTAN, qui faisait la population, et avec les restructurations des années 90, ils ont dégraissé, ils ont pratiquement diminué de 2/3 la main-d'œuvre, le personnel local. Donc la région a été touchée par un taux de chômage assez élevé, Et puis, c'est tombé en même temps avec l'élévation du niveau des diplômes et d'instruction des gens, ce qui fait qu'il y avait de plus en plus de diplômés qui ne trouvaient pas de travail. Et en même temps, bien sûr, est venue cette histoire de recrutement où ils se sont rendus compte que la création d'emplois pour remplacer les retraités qui partaient ne profitait que aux gens qui sont liés au directeur de la société et aussi les gens qui sont liés aux syndicalistes. Donc, c'était vraiment de la corruption et du clientélisme. Et c'est ça ce qui a fait éclater cette révolte. D'autant plus que les revenus énormes qui sont tirés du phosphate ne revenaient pas, au moins en partie, pour le développement social, pour le développement humain, pour le développement économique de la région qui produit le phosphate. Et donc, on peut considérer que ce mouvement de GAFSA en 2008, ça a été quand même... C'est lui qui a préparé ou a été l'un des précurseurs, l'un des signes de la cassure qui existait dans la société tunisienne et de la crise qui commençait un peu à toucher toutes les régions de la Tunisie. La collusion, je dirais, la collusion dans les intérêts des politiques migratoires, les objectifs migratoires, entre d'un côté la Libye et même la Tunisie et le Maroc, je veux dire les pays d'Afrique du Nord, et les objectifs de la politique migratoire européenne, dans la mesure où depuis 15 ans, depuis 1998 peut-être même avant, il y avait une coordination de plus en plus rapprochée entre l'Europe, l'Union européenne, par l'intermédiaire de Frontex, mais c'est après, mais surtout entre les gouvernements à titre bilatéral, entre l'Italie et la Tunisie, et entre l'Italie et la Libye. Et donc on peut dire que les moyens qui sont mis en place, que les pays européens et l'Union européenne, ils ont mis beaucoup d'argent pour aider Kadhafi à contrôler, je veux dire, à lutter contre, à contrôler la migration illégale, mais... dans un cadre, je veux dire, qui a abouti à la violation des droits des migrants, parce qu'il y a beaucoup de migrants qui étaient interceptés ou expulsés d'Italie et qui sont des demandeurs d'asile, des réfugiés, à qui qu'on n'a pas identifiés et qui ont été renvoyés en Libye où ils ont été longtemps emprisonnés. Et après, une partie ont même été expulsés vers des pays où ils n'avaient pas de sécurité pour eux, c'est-à-dire qu'ils étaient menacés dans leur être et dans leur liberté, que ce soit des migrants érythréens, des migrants éthiopiens, des migrants somaliens, etc.
Selon les rumeurs, des mercenaires seraient payés 9000 euros par Libyen tué. D'autres parlent de 500 dollars par jour.
On voyait qu'à chaque fois qu'il y a des accords économiques ou que la Libye, par exemple, a bénéficié de la levée de l'embargo dans les années 2003, 2004, 2005 et d'un rapprochement avec les pays européens, et même occidentaux, au même moment, à chaque fois qu'il y avait ce pas du côté des occidentaux, la Libye fait un pas pour accepter d'être le gendarme de l'Europe pour le contrôle migratoire. Donc on voit bien que c'est vraiment le régime libyen a joué tout le temps de l'immigration comme instrument de pression sur l'Europe et sur les pays européens. Et je crois qu'il y a encore deux ou trois jours, il a dit « je vais lâcher moi les immigrés ». Si l'Europe continue à soutenir le peuple libyen et la protestation en Libye et la révolte en Libye, je vais lâcher, et il l'a dit depuis toujours.
Un racisme anti-noir serait assez répandu dans le pays. De simples travailleurs immigrés, nombreux en Libye, pourraient être assimilés à ces dangereux mercenaires.
Les étrangers en Libye, surtout les Africains. Les Africains, peut-être ils sont peut-être aujourd'hui 1 million ou 1,5 million d'Africains en Libye, et la majorité sont dans une situation, sont très vulnérables, très pauvres, Ils sont exposés à deux menaces réelles. La première menace, c'est le chantage de Kadhafi et de ses milices pour qu'ils rejoignent les mercenaires. Et donc, c'est la deuxième menace, c'est que les Africains maintenant, parce qu'une partie des Africains ont été mobilisés et embrigadés par Kadhafi pour servir de mercenaires, ils risquent le lynchage par la population libyenne qui les chasserait parce qu'ils sont, ils sont mercenaires. Donc, je veux dire, la population libyenne est menacée par Kadhafi et les Africains surtout, et les étrangers en général, parce qu'on a dit, on a trouvé des Tunisiens, on a trouvé des Algériens parmi les mercenaires, les étrangers en Libye, qui vivent en Libye, sont aussi menacés, risquent, je veux dire, le lynchage par la population. Donc, la situation humanitaire, me semble, est très importante.